9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal.
La fin d'une oppression et le début d'une incertitude. Bachar al-Assad est tombé en Syrie. On va faire plus ample connaissance avec le leader islamiste qui l'a fait chuter. Les rendez-vous de l'Elysée reprennent. Emmanuel Macron est toujours à la recherche du Premier ministre idéal. Et puis Notre-Dame de Paris a repris vie. Les premières messes en public ont accueilli 2500 fidèles hier.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar. Et puis à 8h15, nous évoquerons les enjeux géopolitiques de la chute du régime syrien avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. La Syrie oscille entre liesse et doute.
Bachar al-Assad est tombé 10 jours d'une offensive éclair des rebelles islamistes et le dictateur en place depuis 24 ans a pris la fuite à Moscou. Son régime d'oppression a fait des milliers de morts, des prisonniers à foison. 6 millions de Syriens ont quitté le pays. Karam a 31 ans, il en avait 18 quand il s'est réfugié en France. Et aujourd'hui, il savoure sans trop y croire.
J'arrive pas de tout encore à croire. Je pense que j'ai besoin quelques jours pour accepter cette idée-là que Assad, il est plus là. J'ai essayé de ne plus penser à cet espoir-là parce que ça me faisait tellement mal que j'ai plus pensé à la Syrie. Et là, j'ai tellement pleuré de joie, d'espoir et j'ai pensé tout de suite à tous mes amis qui ont été tués par le régime et j'aurais aimé qu'ils soient là avec nous pour fêter cette nouvelle. Et là, j'ai envie de revenir, bien sûr. J'ai envie de revoir ma maison, de voir mes tantes qui vivent encore là-bas. Et à la suite, pour moi, c'est une Syrie libre, laïque, qui accepte tout le monde.
Une Syrie libre et laïque, le rêve de Karam, pas encore une réalité. Est-ce que ça le sera un jour? Les rebelles qui ont fait tomber Bachar al-Assad sont emmenés par des islamistes et notamment leur leader, Abu Mohammad al-Jolani. Il a évolué dans le sillage d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Depuis 10 ans, il fait tout pour polir son image et s'éloigner de ces groupes terroristes. Est-ce qu'on peut y croire, Marc Tédé?
Mais comment témoigne l'évolution de son allure et de son apparence vestimentaire? Abu Mohammad al-Jolani veut démontrer qu'il a changé et son mouvement avec lui, remisant le turban pour une casquette finie, la longue barbe, la sienne est maintenant bien taillée et son look désormais plus révolutionnaire que djihadiste. Après avoir successivement prêté allégeance à Abu Musab al-Zarqawi, fondateur d'Al-Qaïda en Irak, puis à Ayman al-Zawahiri, successeur d'Oussama Ben Laden, le chef d'Ayat Tahrir al-Sham affirme avoir rompu avec Al-Qaïda et dit se concentrer désormais sur la seule Syrie, abandonnant la lutte internationale. Objectif pour Jolani, faire retirer son groupe des listes d'organisations terroristes établies par les Occidentaux. Le mouvement a pour cela multiplié les gestes de tolérance à l'égard des minorités chrétiennes dans la province d'Idlib, passée sous son contrôle depuis 2 ans. Une mue qui laisse certains chercheurs sceptiques, comme Hugo Micheron, et qui rappelle qu'avant leur retour au pouvoir, les talibans affirmaient eux aussi avoir changé.
Merci Marc Tédé. Alors vers quoi la Syrie va-t-elle basculer? Un avenir à la tunisienne ou à la libyenne? Le chercheur en sciences politiques Sébastien Boussois a du mal lui aussi à se laisser convaincre par les mots d'Abu Mohammad al-Jolani.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience à ce jour de groupes djihadistes qui s'intègrent dans la logique du compromis qui autoriserait une forme de gouvernement d'union nationale avec l'intégration d'opposants qui ont des modes de vie et une vision de la Syrie totalement opposée à ce qu'est le groupe HTC, malgré quelques modérations entre guillemets aujourd'hui. Je suis quand même assez sceptique. Et puis, il faut pas oublier non plus que al-Jolani est toujours recherché par les États-Unis et qu'il y a une récompense très forte pour avoir sa tête. Donc, soit on est sur un modèle de transition à la tunisienne, soit on est sur le modèle libyen, c'est-à-dire un basculement dans le chaos et dans la guerre civile.
Des propos recueillis par Julie Drouin. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui au sujet de la Syrie à la demande de la Russie.
Emmanuel Macron reprend ses consultations ce matin à l'Élysée.
La France cherche encore un Premier ministre, 5 jours après la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Le président de la République reçoit les représentants des écologistes et des communistes aujourd'hui. Comme les socialistes, ils appellent à la discussion à des degrés divers. Mais la voie d'un compromis pourrait se dessiner. Chacun pose ses conditions, Lauriane Toulmont.
On peut s'accorder sur 5 sujets. Un chemin existe, assure un cadre des écologistes. Les socialistes ont ouvert la voie avec notamment la réforme des retraites. Plus question d'abrogation, mais de suspension. D'autres lignes rouges pourraient ainsi être dépassées et renvoyées à 2027, abonde l'entourage d'un ancien ministre macroniste qui plaide pour un vrai contrat de coalition. On peut s'accorder sur 2-3 sujets, mais pas au-delà, prévient chez les Républicains. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, a d'ailleurs posé ses lignes rouges, pas de ministre LFI, ni d'application du programme du nouveau Front Populaire. En faisant cela, il a ouvert grand la porte du gouvernement au PS, comme ça lui se refait une image d'opposant, analyse-t-on au sein des LR. La stratégie divise le parti et inquiète le bloc central. Dans l'œil du cyclone, Emmanuel Macron, le président de la République, a lui une obsession, la stabilité économique, souffle-t-on à Renaissance. De quoi faire durer le suspense jusqu'à mercredi, affirme un cadre centriste.
Les Français voudraient bien que la situation politique se décante. Les agriculteurs se mobilisent à nouveau cette semaine. Et dans les entreprises, on s'inquiète aussi de ce flou. Dominique Carlac est membre du conseil exécutif du MEDEF. Elle a expliqué ce matin sur Radio Classique que le manque de stabilité était catastrophique pour les entreprises.
Sur la croissance, sur le marché de l'emploi, sur la trésorerie, ça va pas très bien. La croissance, on pense qu'elle va être autour de 0,5%. On n'a pas connu un niveau de défaillance d'entreprise comme celle qu'on connaît en ce moment. Ça touche les ETI, ça touche les PME. Et qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré 65 000 défaillances d'entreprise. C'est les mêmes niveaux records que quand il y a eu la crise financière. Ça, c'est un élément clé. Suite à cette dissolution, on a eu 53 000 destructions d'emplois. Ça faisait longtemps qu'on détruisait plus d'emplois. Donc, c'est... incertitude nous pose quand même problème.
Dominique Carlac, invité de Radio Classique ce matin. La loi spéciale pour permettre à l'État de fonctionner même sans budget est prête. C'est ce qu'annonce ce matin Laurent Saint-Martin, le ministre démissionnaire du budget. Entre émotion et fierté, les deux premières messes en public à Notre-Dame de Paris depuis l'incendie ont eu lieu hier. 2500 fidèles y ont assisté et ils venaient parfois de loin, Victor Faure.
Dehors, le froid est mordant, mais dedans...
j'avais cette sensation en arrivant tout de suite de chaleur.
Quelques pas à peine dans cette cathédrale suffisent pour être frappé par la lumière de cette pierre si blanche.
Qu'est-ce que c'est beau?
Ça éblouit en fait, on a comme un flash. Puis j'ai des souvenirs de quand j'étais petite, de venir à la messe ici et jouer sur les dalles qui étaient beaucoup plus noires.
Moi ce que j'aime c'est la perspective en fait, quand on entre dans la cathédrale devant le baptistère et on a cette vue, cette perspective incroyable.
Le Seigneur soit avec vous.
Difficile pendant la messe de ne pas rester le regard en l'air comme capté par ces voûtes. Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de la cathédrale.
Nous savons qu'elle est passée par la terrible épreuve du feu et la voilà renouvelée, ressuscitée.
Notre-Dame rénovée aurait presque un air de modernité. Christine y voit un symbole.
On a eu la démonstration que tout peut s'arrêter et que tout peut reprendre. Il y a une parole du Christ qui dit qu'on porte un trésor dans des vases d'argile.
Partout, les fidèles chanceux immortalisent cette messe en photo pour pouvoir se souvenir et dire « j'y étais ».
Et puis si jamais vous avez envie de connaître quelques secrets du ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti va raconter son expérience dans une pièce de théâtre qu'il a coécrite. L'ancien garde des Sceaux va jouer dans cette pièce, ce sera en février 2025, David.
Eh bien j'ai hâte d'entendre les trois coups. À demain Virginie pour d'autres informations, à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar. Emmanuel Macron, un président très entouré à Notre-Dame mais politiquement affaibli, sitôt fini la cérémonie. Radio Classique 8h08.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Ah mais pas d'inquiétude, hein, je vais vous payer. Hein. C'est juste que j'attends d'abord d'être payé pour vous payer. Et comme celui qui doit me payer, doit d'abord se faire payer par celui qui doit le payer. Bah, il faut juste un peu de patience. Mais pas d'inquiétude, hein, ça arrive.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 0707. 01 46 03 0707.
Les guerres et les crises économiques génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les hôpitaux et les écoles sont en danger. Pour reconstruire, soigner, éduquer, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Les crises se multiplient, avec vous, nos forces aussi. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur oeuvre-orient.fr.
Vitalie Tettinger, présidente du Champagne Tettinger.
Cultiver mieux, plus respectueusement, a toujours été une démarche naturelle chez Tettinger. C'est une joie de chercher,
d'apprendre, découvrir ou redécouvrir des solutions responsables pour un champagne encore plus champagne.
L'instant Tétinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Comment une entreprise peut-elle allier durable et rentable ? 2050 Now, la maison, accompagne votre entreprise dans sa transformation durable et la projette vers de nouveaux modèles économiques. Découvrez des parcours sur mesure, alliant ateliers de prospective, expérience apprenante et une riche programmation tout au long de l'année. Rendez-vous sur 2050nowlamaison.com.
Et voilà, papa a profité de l'offre de la deuxième paire offerte chez Atoll. Et il a décidé de l'offrir à...
La femme que je préfère dans tout l'univers.
Mais voilà, la femme que papa préfère dans tout l'univers, c'est...
Ta mère ? Non, tu les as offertes à ta mère ?
Ce n'est pas maman.
En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire offerte pour vous ou pour un proche chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique, pour la 7e fois consécutive. Atoll. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
Grâce à vous, la Fondation du patrimoine sauve nos châteaux en péril. Mais aussi nos églises, nos petites chapelles. Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins, pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du patrimoine, donnons un avenir à notre passé.
À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar, et si la cérémonie de Notre-Dame pour Emmanuel Macron n'était qu'une parenthèse enchantée.
Depuis 180 ans, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, accompagne ses clients sociétaires dans la gestion de leur patrimoine. Assurance vie, épargne retraite, placement financier, mais également une solution d'épargne originale, la Tontine. Le Conservateur propose un accompagnement personnalisé aux épargnants et dirigeants d'entreprises partout en France. Nous donnons de la valeur au temps.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bruno Tertrais dans un instant est l'invité de la matinale, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il nous parlera des conséquences géopolitiques de ce qui arrive en Syrie. Mais avant cela, l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume.
Bonjour David.
Des images superbes de cette réouverture de Notre-Dame. Elles ont été vues dans le monde entier. Mais maintenant, Emmanuel Macron doit trouver un nouveau Premier ministre. On atterrit. Ce moment Notre-Dame n'a-t-il été qu'une parenthèse enchantée pour lui ?
Et écoutez, c'est vrai que durant ces deux jours de grâce, il faut le dire, on a eu l'impression que la France était le plus fier des pays et Emmanuel Macron le plus heureux des présidents. Les images de Notre-Dame, vous l'avez dit, étaient sublimes, émouvantes. La splendeur retrouvée de la cathédrale, les longs applaudissements à tous ceux qui l'avaient sauvée ou qui l'ont reconstruite, la portée visuelle des gestes de la liturgie, de l'évêque frappant le portail de sa crosse à la consécration du nouvel autel, en passant par le réveil de l'orgue. Oui, à travers Notre-Dame, la France a montré, par son histoire et par ses savoir-faire, son génie, son volontarisme et, pour une fois, son unité. Et il faut bien reconnaître qu'en maître des cérémonies, Emmanuel Macron était à sa place et a trouvé les mots justes, voyant dans cette renaissance, je le cite, une métaphore heureuse de ce qu'est une nation. On a vu aussi un président accueillant le monde et capable d'un joli coup diplomatique avec cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, samedi et hier, la crise française semblait bien loin.
Mais, car il y a un mais, la voilà qui se rappelle au bon souvenir du président, la crise française, et là, il y a moins de raisons de se réjouir.
Ah oui, ça c'est sûr. Vous savez, lorsque l'archevêque de Paris avait présenté au chef de l'État le reliquaire qui doit accueillir la couronne d'épines, il avait justifié l'éclat lumineux de ce reliquaire par le fait que cette couronne offerte à Notre-Dame par Saint-Louis était à la fois, je cite l'archevêque, une couronne de dérision et une couronne de gloire. Alors, en bonne théologie chrétienne, ce paradoxe a un sens, hein, le chemin de la croix qui conduit à la résurrection. Mais dans la pratique politique, c'est en même temps là et bien plus précaire. Le président qui célébrait ce qui restera peut-être comme l'un de ses succès les plus incontestables est celui qui est aujourd'hui sans majorité, sans gouvernement et qui peine à trouver un nouveau Premier ministre et à recréer les conditions d'un cadre stable. À le voir accueillir tous les grands de ce monde, Donald Trump en tête, on se croyait face à un chef de l'État au fait de sa puissance, mais le maître des cérémonies de Notre-Dame est un roi nu en son propre pays. Il a parlé samedi, et disons-le, bien parlé, d'une France qui s'était dépassée et qui l'aimait, il doit maintenant réapprendre à parler à une France qui s'enfonce et qui ne l'aime plus.
Autrement dit, c'est pas à Notre-Dame qu'il va trouver son Premier ministre.
Pas vraiment, hein. Même si, et ça c'est l'ironie d'un tel événement, la nef de Notre-Dame samedi était remplie de gens dont le nom est cité pour Matignon, hein, François Bayrou, Catherine Vautrin ou Bruno Retailleau. Alors, il lui reste quelques heures maintenant pour trouver celui ou celle qui sera capable de rendre un minimum de cette confiance à cette nation qu'il aimerait heureuse. Alors l'archevêque de Paris a fait prier pour que notre pays qui scrute, pour notre pays qui scrute son avenir avec inquiétude, eh bien parions qu'Emmanuel Macron ne boudera pas cette invitation faite à Notre-Dame.
L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant l'invité de la matinale et cette question, quels sont les enjeux géopolitiques de la chute du régime de Bachar al-Assad? Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez publié cette année l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflits aux éditions des Arènes. Avant d'évoquer les conséquences régionales et internationales, la chute de Bachar a des airs de surprise. Est-ce vraiment une surprise?
C'est une surprise parce que c'est allé très très vite. Mais vous savez, David Abiker, les régimes autoritaires ont une caractéristique. Ils durent longtemps et ils s'effondrent très vite. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement à quel moment ils s'effondrent. En fait, il s'est passé, on peut reconstituer le puzzle, il y a une conjonction de trois choses. D'abord, les soutiens du régime, ceux qui ont sauvé Bachar el-Assad en 2015, l'Iran et la Russie, sont affaiblis ou ne peuvent pas, n'ont pas pu affecter les moyens militaires nécessaires à la poursuite de ce soutien. Vous avez une armée corrompue, une force organisée qui est prête à avancer et un pays opportuniste, la Turquie, au nord, qui décide que c'est le moment. Tout cela fait que ben voilà, les choses sont allées très vite. Encore une fois, les régimes autoritaires, on le voit tout, partout dans l'histoire, partout dans le monde, ils durent longtemps mais ils peuvent s'effondrer très vite.
Bruno Tertrais, cet effondrement, c'est la victoire de rebelles djihadistes. Mais de quel djihad parle-t-on? On a l'impression, en regardant les commentaires, en écoutant un peu ce qui se dit, qu'il y a des bons et des mauvais djihadistes.
Alors,
maintenant,
je ne dirais pas cela. Hein, ça me rappelle, si vous voulez, le débat sur les talibans modérés, les bons ou les mauvais. Non, d'abord, il y a 50 nuances d'islamisme et même de djihadisme. J'ai vu le malaise sémantique qui s'installait la semaine dernière chez vos confrères et consoeurs. Alors, des islamo-djihadistes. Bon, écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que, premièrement, ce sont des gens qui ont un agenda national. Il n'est pas question d'exporter une quelconque révolution, il n'est pas question d'exporter le djihad. C'est plutôt une bonne nouvelle pour, y compris pour nous. Après, savoir si ce sont plutôt des islamistes radicaux ou des islamo-djihadistes, je laisserai aux experts du sujet le soin de trancher, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment trancher parce que ce régime qui va s'installer, on ne sait pas exactement quelle coloration il emportera. Pour faire simple, David Abiker, je vais vous dire que on va avoir un régime qui, à mon sens, sera quelque part entre la Turquie et l'Afghanistan. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un régime qui sera certainement islamiste, mais avec des nuances qu'il est encore un petit peu difficile de cerner à cette heure. En tout cas, moi, je ne rentrerai pas dans le jeu des pronostics. C'est encore trop flou.
Alors, passons maintenant aux conséquences régionales. Bruno Tertrais, qui sont les grands perdants, qui sont les grands gagnants de cet effondrement du régime syrien?
Le grand gagnant, c'est évidemment la Turquie, qui, ça y est, Erdogan, c'est payé, pardonnez-moi l'expression, Bachar el-Assad, et la Turquie va pouvoir faire deux choses. Premièrement, établir, conforter sa zone de sécurité, c'est comme un nouveau petit vilayet ottoman au nord de la Syrie, et surtout s'assurer que les réfugiés syriens, qui sont extrêmement nombreux, plusieurs millions en Turquie, vont pouvoir rentrer. Donc là, c'est gagnant-gagnant pour monsieur Erdogan. Les perdants, à l'évidence, ce sont la Russie qui va non seulement perdre un allié, mais aussi très probablement, enfin, ils sont déjà en train de partir, perdre deux bases militaires importantes qui signalaient le retour, le grand retour de la Russie au Moyen-Orient, les bases de Tartous et de Khmeimim, une base navale et une base aérienne. Donc, c'est une vraie perte pour la Russie, perte aussi majeure, bien, on l'a tous dit depuis quelques jours, pour l'Iran, qui voit l'axe de la résistance, patiemment construit depuis 40 ans, s'effondrer littéralement sous nos yeux. Le Hezbollah n'existe plus en tant que force militaire puissante et organisée. Et ce fameux point de passage qui allait de l'Iran à l'Irak, à la Syrie, au Liban, vers la Méditerranée, ce fameux accès de l'Iran aux mers chaudes, enfin à la mer Méditerranée, la mer chaude c'est plutôt la Russie, eh bien ça y est, il est brisé. Donc en termes de géopolitique compréhensible, on va dire, la Russie perd son accès aux mers chaudes et l'Iran perd son accès à la Méditerranée. Non, c'est vraiment une très grosse perte pour la Russie et pour l'Iran, avec une grande question sur l'Iran que beaucoup de gens vont se poser légitimement. Est-ce que ça va conforter l'Iran dans sa volonté d'aller jusqu'à la bombe atomique, puisque c'est après tout peut-être le seul atout stratégique qui lui restera.
Il y a un paradoxe quand même, c'est que deux conflits fabriquent la fin d'une guerre civile, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'Ukraine et le conflit au Proche-Orient.
Un général américain, il y a une vingtaine d'années, disait que le Moyen-Orient est comme un mobile. Vous touchez une pièce et toutes les autres pièces se mettent à bouger. Vous savez, on est quand même dans une région très proche de l'Europe orientale, au fond. Et donc, c'est pas extraordinaire que toutes ces pièces soient interdépendantes les unes des autres, mais c'est vrai, on peut le dire, indirectement la chute de Bachar el-Assad est en partie le fruit du conflit ukrainien et du conflit au Proche-Orient.
Alors on a vu des scènes de pillage de la résidence du chef de l'État syrien. Les scènes de pillage, c'est assez courant dans ces contextes-là. En revanche, on est plutôt inquiet sur l'arsenal syrien et notamment l'arsenal chimique, puisque Bachar al-Assad s'est rendu coupable d'avoir utilisé ses armes chimiques contre son propre peuple. Est-ce qu'on sait où sont ces armes et ce qu'elles pourraient devenir ?
Ce pillage des palais en rappelle un autre, en rappelle d'autres, bien sûr. Vous avez fait tout à l'heure un excellent rappel de comment la chute des dictateurs se passe. Ça a rappelé, bien sûr, dans le pays d'à côté, la chute de Saddam Hussein et le sac des palais de l'époque, ce qui me permet d'ailleurs de rappeler que c'est aussi la fin du baasisme, c'est-à-dire de cette idéologie nationale que certains n'hésitent pas d'ailleurs à comparer à une forme de fascisme moyen-oriental qui a quand même perduré, en tout cas officiellement, pendant plus de 60 ans. C'était le deuxième régime baasiste avec celui de l'Irak. Les fameuses armes chimiques. Alors là, effectivement, il y en a. C'est pas comme en Irak. On est sûr qu'il y en a, enfin qu'il y en avait et qui en a toujours. Le pays qui s'en inquiète le plus, c'est Israël. Et Israël, qui suit ces choses-là depuis des décennies de manière extrêmement précise, a déjà commencé à bombarder un certain nombre d'installations liées au programme chimique syrien, de telle sorte que ces moyens ne puissent pas tomber entre de mauvaises mains, y compris d'ailleurs sans doute entre les mains du prochain gouvernement syrien.
Les médias sont toujours pressés, les journalistes aussi. On veut savoir ce qui va se passer juste après, on ne sait pas attendre. Est-ce que la fin de cette guerre civile, si c'est la fin, va provoquer des tensions ou un apaisement dans la région ?
Ça crée des frictions, cela crée du bouillonnement. C'est encore trop tôt pour le dire, cher David, je suis navré, mais je voudrais quand même rappeler deux choses. D'abord que souvent, on préfère dans la région un régime autoritaire où qui sait où il va à un régime dont on ne sait pas trop où il va. Regardez Israël, par exemple. Israël, on vous le dit depuis des années, nous préférons le diable que nous connaissons au diable que nous connaissons pas. Quand on leur demandait que pensez-vous de Bachar el-Assad ? Voilà, parce qu'au moins il y avait quelque chose de prévisible, donc une ère d'incertitude s'ouvre. Mais je pense que c'est une question que se posent les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque pour nous ? Le terrorisme, les réfugiés. Et là, je crois qu'il faut rappeler franchement une chose importante. Le régime de Bachar el-Assad est le co-constructeur de l'État islamique. C'est lui qui, en libérant des djihadistes de prison et en les envoyant vers l'Irak au début des années 2010, a participé à la création de l'État islamique. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Je comprends qu'on s'inquiète aujourd'hui, mais rappelez que le régime de Bachar el-Assad a participé à la naissance de l'État islamique. La deuxième chose, les réfugiés, les légitimes aussi de s'en inquiéter, mais c'est ce régime, cette guerre civile qui a provoqué ces flux de réfugiés. Les réfugiés, ils sont en train de rentrer, on les voit. Donc, je crois qu'il faut... Ça n'est pas pour dédouaner le régime qui va s'installer de ses actions futures, nous ne savons pas trop ce qu'il fera, mais dire, on avait la stabilité et maintenant, on a des risques. Attention de ne pas inverser les propositions. C'est à cause de Bachar el-Assad que nous avons eu l'État islamique et les réfugiés. Je simplifie un peu, mais c'est quand même quelque chose auquel il faut toujours rappeler.
En parlant des réfugiés, on a entendu des réactions très rapides d'une partie de la classe politique, Éric Ciotti ou certains représentants du Rassemblement National, qui ont immédiatement mis en garde après la chute du régime syrien contre un afflux de migrants vers l'Europe.
Mais justement, comme je vous le disais à l'instant, c'est exactement le contraire. Ces réfugiés syriens, en général, ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer chez eux. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles la Turquie a soutenu ce renversement et ce changement de régime. C'est pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Donc, moi, je fais le pari qu'on aura beaucoup plus de réfugiés qui reviennent que de réfugiés qui partent. Ça dépendra aussi, bien sûr, du sort qu'ils avaient aux minorités, notamment aux minorités chrétiennes. Pour l'instant, les premiers signaux sont plutôt positifs sur place, mais attendons de voir, bien sûr.
Quelle va être l'attitude des États-Unis et de la Russie dans cette région ?
La Russie ne veut pas tout perdre au Moyen-Orient. Elle vient de convoquer elle vient de demander une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la Russie d'utiliser cette expression, a d'autres chats à fouetter. Encore une fois, ça montre en creux ce qui se passe, montre aussi toutes les difficultés matérielles et militaires qui se posent à la Russie. Donc la Russie va s'efforcer de ne pas tout perdre et se dit que, voilà, comme c'est le cas depuis à peu près 3 siècles, la Russie finira par revenir au Moyen-Orient, mais là, pour l'instant, elle a à peu près perdu toutes ses billes. Pour les États-Unis, la priorité sera, bien sûr, de continuer à contribuer à la sécurité d'Israël, mais surtout de s'assurer que l'Iran n'aille pas jusqu'au seuil nucléaire, parce que ça va être un des grands sujets des prochains mois. Un Iran affaibli qui perd ses principaux leviers d'action, il reste les outils quand même au Yémen, eh bien c'est un Iran qui pourrait effectivement être tenté d'accélérer son programme. Et là, ça va être un des grands sujets des prochains mois.
Bruno Tertrais, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et que vous venez de publier l'Atlas des Frontières, Murs, Migrations, Conflits aux éditions des Arènes. À bientôt Bruno. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, Luc Ferry, Radio Classique, il est 8h26.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600 euros hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voire conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer.
Depuis plus de 100 ans, Nebouéam est la référence des amoureux du piano à Paris. Nebouéam ouvre une 4e boutique dans l'est de la capitale. Pianiste débutant ou confirmé, vous trouverez dans nos magasins un choix incomparable de pianos neufs ou d'occasion parmi les plus belles marques et les meilleurs conseils pour bien choisir. Rendez-vous chez Nebouéam et dans notre nouveau magasin à Paris, 8 rue Rondelet dans le 12e, métro Royer Diderot. Nebouéam, la passion des beaux pianos.
Pour Noël, offrez des livres XO.
Les Effacés de Bernard Minier. Deux tueurs, deux mondes, une situation explosive, un thriller magistral.
Le Lotus d'or de Christian Jacques. L'histoire fabuleuse du pharaon Snéfrou, le plus grand bâtisseur de pyramides, passionnant.
XO, la bonne idée cadeau.
Le grand concert de Noël de Radio Classique vous donne rendez-vous à Paris. Venez fêter Noël avec les plus grands compositeurs et écouter en famille les plus beaux chants de Noël. Une soirée merveilleuse avec le clarinettiste Pierre Génisson, l'orchestre Consuelo dirigé par Victor-Julien Laferrière et le chœur de l'université PSL. Le grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par David Abiker, les 14 et 15 décembre au Théâtre des Champs-Élysées. Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Le grand concert de Noël sera également dans nos cliniques, résidences, colocations et maisons de retraite. Clariane, première communauté européenne de soins dans les moments de fragilité.
Toyota.
Cette Yaris est à moi.
Je l'ai vue en premier.
Mais lâchez cette portière.
Attention, derrière vous.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Et voilà, elle est à moi.
Ouvrez cette portière, madame, ouvrez cette portière.
En ce moment, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur l'ensemble de la gamme hybride. Disponible rapidement.
Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture.
Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 janvier 2025. Immatriculation avant le 31 janvier dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il n'est pas encore 8h30, il est 8h29 et 52 secondes. Le rappel des titres avec Pierre Pilet.
Après la censure du gouvernement Barnier, la loi spéciale est prête. Déclaration ce matin de Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire des comptes publics. Ce texte va permettre à l'État de fonctionner temporairement sans budget. Il sera présenté au prochain Conseil des ministres. Emmanuel Macron, lui, poursuit ses consultations. Ce matin, le président de la République reçoit les responsables des écologistes et du Parti communiste à l'Élysée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence aujourd'hui après la chute du président syrien Bachar al-Assad et l'arrivée des rebelles dans la capitale Damas. Hier, le nouvel homme fort du pays, Abou Mohammad al-Jolani, a demandé à ses combattants de ne pas s'approcher des institutions. Elles restent sous contrôle du premier ministre syrien jusqu'à une passation de pouvoir officielle. Le président de la Corée du Sud a interdiction de quitter son pays, décision du ministère de la Justice. Yoon Suk-yeol fait l'objet d'une enquête après avoir décrété la loi martiale pendant quelques heures la semaine dernière.
Merci Pierre, à demain, il est 8h31. C'est l'heure d'ouvrir les journaux avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse de ce matin, on cherche l'ouverture et on la trouve.
Les rebelles syriens l'ont trouvée, l'ouverture, et plus vite qu'on ne le pensait. Après 24 ans d'un règne sanglant, écrit La Croix, le régime de Bachar el-Assad a été balayé en 10 jours. La chute soudaine du despote poursuit Libération a été célébrée dimanche par des millions de Syriens euphoriques et incrédules dans le pays et à l'étranger. Le quotidien L'Opinion explique les dessous de cet effondrement éclair, l'affaiblissement du parrain russe, bien sûr, mais aussi le délitement d'une dictature de l'intérieur. L'armée du régime était clochardisée, écrit l'Opinion. Les soldats crèvent de faim et les paysans les nourrissent pour qu'ils ne volent pas leurs moutons. Et le Figaro raconte les dernières heures du clan Assad, le tyran et ses proches pressés de monter dans un avion privé samedi peu avant 22h, laissant derrière eux un pays dans le chaos.
La Syrie est-elle délivrée ou sous la menace d'une nouvelle tyrannie islamiste cette fois? Les titres des journaux expriment l'incertitude.
Damas valait bien une liesse, mais le monde observe la chute de Bachar el-Assad entre liesse et prudence, relève le Parisien. Le journal décrit le chef des rebelles, Abou Mohammad al-Jolani, 42 ans, barbe noire et œil vif, passé d'un vocabulaire fondamentaliste à une parole modérée pour parvenir à ses fins, qui a rompu avec Al-Qaïda et troqué le turban des djihadistes pour un uniforme militaire et parfois même un costume civil, une stratégie de la cravate version islamiste en quelque sorte. Après Bachar, inquiétude et espoir, hésite le télégramme de Brest. La Croix évoque une transition à haut risque. Les Échos, la grande inconnue de l'après-Assad. Il est toujours possible, malheureusement, qu'une ouverture soit suivie d'une fermeture.
À Paris, le grand événement du week-end, c'était la réouverture de Notre-Dame de Paris. La cathédrale fait encore la une ce matin.
Notre-Dame de beauté, titre le Figaro, avec vue plongeante sur l'intérieur de la cathédrale, accueillant ses invités de marque. La renaissance de Notre-Dame, proclame La Croix, ce qui est bien le moins. Même Libération, a priori moins sensible aux célébrations religieuses, évoque une réouverture déjà culte, en soulignant que l'inauguration en grande pompe de la cathédrale a été l'occasion d'un moment d'unité dans une période troublée, mais a un peu froissé les tenants d'une stricte laïcité. Tout cela parce parce que le président de la République a finalement parlé à l'intérieur de Notre-Dame à cause de la météo. C'est donc le ciel qui en a décidé ainsi. Dans le hors-série, très beau hors-série du magazine Le Point sur Notre-Dame de Paris, Ken Follett, grand romancier des cathédrales, tranche ce litige à sa façon. « Moi qui ne suis pas croyant, dit-il, je reste estomaqué quand je suis dans une cathédrale. L'architecture, la musique, les mots de la Bible me procurent une certaine paix dans l'âme. Et à mon avis, c'est ce que ressentent les visiteurs. Peu importe à quelle religion ils appartiennent, on se promène dans un bâtiment qui existe en général depuis 800 ans. C'est très émouvant de savoir qu'un homme, il y a 800 ans, a peut-être pensé la même chose que moi à cet endroit. »
Alors, contrairement à Notre-Dame, le chantier de l'autoroute A69, alors disons on atterrit, hein, risque de ne jamais être achevé. La justice doit statuer aujourd'hui.
C'est en première page de la Dépêche du Midi et c'est une affaire locale puisqu'il s'agit du tronçon de 57 km qui doit relier Castres et Toulouse. Mais c'est aussi une affaire nationale et symbolique car l'A69 est attendue depuis 20 ans et que le chantier est devenu un feuilleton façon Notre-Dame-des-Landes avec une cascade de recours écologistes, tous rejetés jusqu'à ce que le mois dernier, devant le tribunal administratif, la commissaire du gouvernement prône le retrait des autorisations. La Dépêche souligne que les travaux ont pourtant commencé depuis 18 mois et que 70% des ouvrages d'art ont déjà été réalisés. 500 élus locaux ont signé une tribune de soutien au projet au nom du désenclavement, du développement économique et de la sécurité routière. Ça n'est pas rien. Le tronçon Toulouse-Castres est censé faire gagner 20 minutes. Pour l'instant, on a perdu plus de temps qu'on en a gagné.
Ouverture ou fermeture, on s'est beaucoup posé la question pendant l'épidémie de Covid-19. Une étude publiée aujourd'hui donne des réponses.
Le Monde en livre un résumé détaillé dans sa matinale numérique et dans son édition imprimée cet après-midi. L'étude de l'Institut Pasteur compare la surmortalité liée au Covid dans 13 pays d'Europe entre janvier 2020 et juin 2022. Avant l'arrivée des masques et des vaccins, le mode de transmission du virus faisait débat. Les pays qui ont pris rapidement des mesures de restriction des contacts sociaux s'en sont mieux sortis que les autres, écrit Le Monde. Ils ont sauvé plus de vies et préservé leurs économies. Avantage aux pays nordiques, indique l'étude. En France, on a évité la catastrophe, car malgré trois régions touchées, le confinement a gelé la situation. Plus les pays ont confiné tôt, quand les hôpitaux étaient peu remplis, meilleur a été le résultat, résume dans Le Parisien le professeur Arnaud Fontanet, un des auteurs de l'étude. Le même journal, Le Parisien, donc, signale que la vaccination contre le Covid est en chute libre cet hiver. Ce n'est pas une bonne nouvelle.
On termine avec un article des Échos qui vous a laissé pantois. Il s'agit des difficultés financières de la Poste et des solutions pour y remédier.
Là, c'est de l'ouverture du courrier qu'il s'agit et ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. La Poste est une entreprise publique lourdement endettée, il y en a d'autres. Pour améliorer ses comptes, elle propose au gouvernement des pistes pour atténuer le fardeau du courrier, écrivent les Échos. Vous pensiez donc que la distribution du courrier, c'était le métier de la Poste? Eh bien non, c'est son fardeau. Comme si les pompiers trouvaient que ça coûte trop cher d'éteindre les incendies. On apprend donc dans les Échos que la Poste réfléchit à allonger le délai pour la livraison des lettres et des colis qui pourrait passer à 4 ou 5 jours et même à 7 jours pour les envois qualifiés de non urgents, ce qui veut dire que pour la Poste, l'urgence, c'est 4 ou 5 jours.
Dans ces délais, il vaut mieux s'acheter un pigeon, hein, voyageur.
Oui. D'après les Échos, le réseau postal ne comprend plus que 38% de vrais bureaux de poste. Le reste, ce sont des points partenaires, comme on dit, dans des mairies ou dans des tabacs. Ajoutons que le prix du timbre vert va passer de 1,29€ à 1,39€ le 1er janvier et que la Poste réclame à l'État une augmentation de sa contribution qui dépasse déjà 1 milliard d'euros par an. L'État, ce sont les contribuables, c'est-à-dire vous et nous, et je suggère qu'on demande donc aux contribuables d'envoyer leur chèque par la Poste.
Nous voilà affranchis. À demain, Hervé.
À demain.
Radio Classique, 8h37.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé,
j'agis bien.
Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez le décryptage du lundi au vendredi à 7h54 sur Radio Classique.
Les ETI sont essentielles dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec « Grâce à nos ETI » chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
Pour une vision nette de près comme de loin, découvrez les dernières technologies des verres Varilux Essilor chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique pour la 7e fois consécutive. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
Retrouvons François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir le Journal des Finances.
Malgré la crise politique en France et l'absence de budget, le CAC 40 résiste, mais c'est ailleurs qu'il faut aller chercher du potentiel et de la croissance. Investir vous donne ses actions préférées à l'international.
Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans.
De nombreux services hospitaliers sont fermés ou surchargés. Et les soignants sont au pied du mur.
Hospitaliser des malades ici, c'est l'idée de qui ? C'est grave pour les malades ! C'est dangereux pour vous !
Un hôpital, c'est fait pour hospitaliser, pas pour trier et renvoyer à domicile.
Personne n'en voulait. On n'allait pas les laisser dans la rue.
Non, on n'avait pas le choix, vraiment.
Soigner, c'est résister. Hippocrate, la création originale Canal+, revient pour une troisième saison. À découvrir dès maintenant via MyCanal.
Greuze, qui ne connaît pas ces portraits d'enfants rêveurs ou effrayés, surpris ou émerveillés, que l'on trouve dans tous nos livres et nos musées. Peintre des Lumières, ami de Rousseau, Greuze redéfinit la place de l'enfant et de la famille dans la société pré-révolutionnaire. 50 œuvres de ce grand peintre provenant de 25 collections privées, européennes et américaines, sont pour la première fois exposées à Paris, à la galerie Éric Coatalem, 136 Faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 20 décembre.
Toyota.
Cette Yaris est à moi.
Je l'ai vue en premier.
Mais et lâchez cette portière.
Attention derrière vous.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Et voilà, elle est à moi.
Ouvrez cette portière, madame, ouvrez cette portière.
En ce moment, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur l'ensemble de la gamme hybride. Disponible rapidement.
Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture.
Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 janvier 2025. Immatriculation avant le 31 janvier dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À 28 ans, Alexis voulait acheter son premier appartement. Mais il lui manquait un apport pour son crédit. Quant à ses parents, il n'avait pas assez pour l'aider. Alors au cabinet Bougardier, nous leur avons proposé un prêt hypothécaire garanti sur leur résidence principale. Les parents ont ainsi libéré de la trésorerie pour l'apport d'Alexis et leur fils est maintenant propriétaire. Comme pour Alexis, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur CoinHouse.com.
Ça, c'est Raymond qui a chopé un vilain virus juste avant l'anniversaire de son petit-fils. Ça, c'est Raymond qui a pris des antibiotiques pour guérir plus vite de ce vilain virus. Et ça, c'est Raymond qui, ne va pas guérir plus vite parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les vilains virus.
C'est dommage.
Eh oui, Raymond. Mais vous fêterez ça la semaine prochaine. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h42, c'est l'heure de retrouver le philosophe Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous ce matin, toujours en direct évidemment. Luc, parlons tiens de cette cérémonie à Notre-Dame. C'était évidemment samedi. Pour le chef de l'État, ce fut une sorte de parenthèse enchantée, dixit Guillaume Tabar tout à l'heure à 8h10. Cette cérémonie vous a-t-elle semblé réussie?
Forcément, on va pas gâcher la fête. Je dois avouer que ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité de l'artisanat français. Voilà, il y a un magnifique numéro du Figaro Magazine sur le sujet parce qu'on voit comment les peintres, les sculpteurs, comment les ouvriers aussi, les artisans. Il y a des artistes, des artisans, des ouvriers, les couvreurs, les verriers. Enfin, les plâtriers. C'est absolument extraordinaire ce qu'on a gardé comme artisanat. Il n'y a pas
un seul pays au monde qui aurait été capable de faire ça. Même l'Allemagne n'aurait pas été capable de faire ça.
Vous savez qu'il y a des ferronniers, il y a quand même des ferronniers américains qui ont travaillé sur la réparation de Notre-Dame.
Il y a des artisans partout dans le monde, mais pas cette collection, cette réunion de savoir-faire qui est absolument unique à la France et qui vient de la construction des cathédrales, c'est-à-dire de la naissance de la franc-maçonnerie. Puisque moi je suis pas franc-maçon, mais le franc-maçon c'est le maçon qui était libre et qui construisait ses cathédrales. Et il y a eu tout cet artisanat qui n'a pas été perdu depuis. Donc c'était très bien, évidemment, on pouvait pas faire autrement que d'inviter 50 chefs d'État et de gouvernement, tout ça c'est codé, il faut le faire. Mais et c'est pas par démagogie que je dis ça, mais si j'étais président de la République, j'aurais fait une cérémonie spéciale. Bien sûr, ils ont été invités aussi, mais une cérémonie spéciale pour les artisans, parce que ces gens-là sont aujourd'hui, certains sont tristes.
Ah ben elle a eu lieu la semaine dernière.
Non, enfin, ils ont été invités, mais c'était
pas... invités.
Non.
Le président de la République était au milieu d'eux.
David, je suis pas
encore
gâteux.
Il y avait des casques partout.
Non, je suis pas encore totalement gâteux. Je parle d'une cérémonie spéciale. Quand je dis quelque chose, généralement j'ai un peu réfléchi avant. Voilà, donc ils ont bien sûr été invités, c'est tout à fait normal. Mais j'aurais fait une cérémonie spéciale parce qu'encore une fois, ce savoir-faire français, il est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. J'en parlais hier avec Dany Cohn-Bendit. L'Allemagne est un pays formidable. Il y a une industrie allemande et il y a un savoir-faire allemand aussi. Mais Dany me disait, oui, tu as totalement raison. L'Allemagne n'aurait pas été capable de faire ça. Aucun pays n'aurait été capable de faire ça. Et ça, c'est formidable. Donc, pour Emmanuel Macron, bien sûr, c'est un moment béni par rapport à la situation politique française. On peut le saluer, le travail qui a été fait sous son égide, évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un savoir-faire français. Il y a une image de la France au moment où la France est quand même politiquement dans les choux, pour être poli encore. Eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Comme les Jeux Olympiques, d'une certaine. Moi, j'ai pas aimé la cérémonie des Jeux Olympiques, mais néanmoins, on a donné au monde entier une image d'une réussite. Ça fait deux fois qu'on donne une image de réussite et ça fait du bien.
Luc, vous avez évoqué la franc-maçonnerie.
Oui.
Et fait un lien entre la maçonnerie opérative, c'est-à-dire la taille de la pierre. Les équilibres de ces pierres, la pierre angulaire, etc., etc. Évidemment, les proportions, donc l'architecture, et la franc-maçonnerie spirituelle. Oui. Comment vous établissez ce lien? Comment il s'opère intellectuellement?
Alors, c'est très intéressant, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'obédiences. Il y a des obédiences qui sont très laïques, comme le Grand Orient, et puis il y a des obédiences qui sont plutôt religieuses, comme la GL ou la GLNF, où il y a des croyants de toute confession. Et c'est très intéressant de voir que dans toute la franc-maçonnerie, de toute façon, il y a un rapport au grand architecte, il y a un rapport à la transcendance. Et ça, même si on n'est pas croyant, je crois que vous ne l'êtes pas non plus, ou pas plus que moi, on a, quand on rentre dans un édifice comme ça, on a un rapport à la transcendance qui est immédiat, ça vous tombe dessus, parce que on est obligé de reconnaître, même si on est athée, que pour fabriquer, pour construire, pour concevoir des édifices aussi beaux, aussi monumentaux, aussi incroyablement décorés, il faut un rapport à l'au-delà. Il faut un rapport au plus humain. Voilà. Et même si on est athée, on peut avoir une spiritualité. Moi, je parle de spiritualité laïque. Tous mes livres tournent autour de la question de la spiritualité laïque. Et ce qui m'intéresse, c'est cette question du rapport à la transcendance. Et donc, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs vecteurs, il y a plusieurs voies qui conduisent à la transcendance. On n'est pas obligé d'être croyant pour avoir un rapport à la transcendance. L'amour est une forme de rapport à la transcendance. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous sortez de vous-même et vous êtes dans un rapport à l'altérité de la personne que vous aimez et qui transcende, à la limite, vous pourriez vous sacrifier pour elle, donc elle transcende votre vie d'une certaine manière. Mais là, on a un monument qui symbolise plus que n'importe quel autre ce rapport à la transcendance.
Et les francs-maçons ont gardé, puisque vous célébriez, vous célébriez à l'instant les artisans et leur savoir-faire, les francs-maçons ont gardé dans leur symbolique les outils, c'est-à-dire la truelle, l'équerre, et toute une imagerie qui vient de la construction.
Exactement.
Et le jour où Notre-Dame a brûlé, Jean-Luc Mélenchon ça surprendra plus d'un et plus d'une, Jean-Luc Mélenchon a sans doute été l'un des hommes politiques qui a le mieux célébré les origines du génie créatif qui se manifeste lors de la construction de Notre-Dame de Paris, invoquant les origines chrétiennes, orientales et judaïques. C'est-à-dire qu'il est allé chercher du côté des pyramides, il est allé chercher du côté du temple de Jérusalem et évidemment de la tradition chrétienne, l'explication du miracle architectural qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Que vous inspirent ces trois courants, ces trois rivières qui aboutissent à la construction de cet édifice?
Vous les retrouvez dans le fameux roman de Victor Hugo, évidemment, parce que Victor Hugo, comme vous le savez, était un spiritualiste. Alors, est-ce qu'il était vraiment croyant ou pas, c'est très difficile, mais il avait un rapport à la spiritualité, un rapport à la transcendance qui réunissait toutes ces spiritualités auxquelles il s'intéressait. Ce qui est assez intéressant chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça que je, malgré tous les désaccords abyssaux que j'ai avec lui, je n'arrive pas à détester cet homme, parce qu'il est évidemment cultivé et il ne peut pas mettre totalement de côté ce fond culturel et ce fond philosophique qui est le sien, puisqu'il a une licence de philo. Et donc oui, Victor Hugo, bien sûr. Alors, ce qui est très, vous évoquiez le savoir-faire des Américains, de ces artisans américains qui sont venus. N'oubliez pas qu'il y a à peu près, je crois, 60 000 mécènes américains qui ont donné de l'argent pour la restauration de Notre-Dame. Et c'est ce qui explique aussi, bien sûr, la présence de... Alors, c'est pas la seule explication, mais la présence de Trump, qui à la fois donne l'image aux croyants américains qu'il a été sauvé par Dieu, évidemment, puisqu'il a échappé à la mort à 2 centimètres près, mais aussi qui sait très bien qu'il y a des dizaines de milliers d'Américains anonymes qui ont donné de l'argent. Il y a des mécènes très riches comme Bernard Arnault ou François Pinault, et c'est formidable d'avoir des riches en France, et on voit à quel point c'est utile dans des moments comme celui-là. Et puis vous avez des anonymes, et il y a eu, je crois, 360 000 mécènes qui ont donné de l'argent. Donc on a vraiment...
Il ne faut pas oublier Total aussi, parce qu'on parle souvent des super profits de Total, mais enfin,
beaucoup
d'argent a été réinjecté comme ça via Total dans la reconstruction.
Ces entreprises qui sont décriées par l'extrême gauche et dont on s'aperçoit qu'on a évidemment besoin d'elles quand il y a, enfin tout le temps besoin d'elles en vérité, mais aussi besoin d'elles dans ces occasions très particulières.
Un mot sur le secret maçonnique. Quand on dit que les compagnons francs-maçons, les maîtres maçons se transmettent des secrets qu'ils cachent souvent entre deux pierres, dans des inscriptions un peu ésotériques, qu'est-ce que ça a à voir avec la transcendance et la spiritualité?
Ça, c'est aussi une vieille tradition, c'est les mystères d'Eleusis, si ça vous dit quelque chose. Il y a toujours dans les religions quelque chose de mystérieux. D'abord, la foi elle-même est un mystère. Et puis, on remonte au mystère d'Eleusis, donc à cette tradition grecque, avec cette idée qu'en effet, à l'origine du divin, à l'origine de la transcendance, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, nous les petits humains, et donc quelque chose qui est de l'ordre du mystère, évidemment. Et donc, il n'y a pas de transcendance sans mystère. On parle aussi des mystères de l'amour, même si on n'est pas du tout croyant. Et donc, bien sûr, il y a cette dimension du secret. Moi, je suis pas du tout franc-maçon, mais je suis souvent invité par les francs-maçons pour parler justement de spiritualité laïque. Moi, je les aime bien, je m'entends bien avec eux, je trouve qu'il y a cette idée de grand architecte, cette idée de spiritualité qui n'est pas forcément religieuse. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que normalement, on fait pas son coming out quand on est franc-maçon. Normalement, même le fait d'être franc-maçon doit être quelque chose qui est gardé secret.
Luc Ferry, il a été un peu reproché, je dirais un peu, à Emmanuel Macron de mélanger le laïc, de ne pas respecter la séparation de l'Église et de l'État. Alors ça a gêné certains aux entournures. Est-ce qu'on est dans la France peine à jouir?
Oui, là c'est ridicule. Il y a de toute façon des traditions culturelles qui sont des traditions d'abord et avant tout religieuses. Et moi, encore une fois, je ne suis pas croyant, mais j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi sur la signification du message de Jésus pour les non-croyants. À la demande de Benoît XVI, figurez-vous, qui m'avait choisi comme interlocuteur de son ministre de la Culture. Donc on peut ne pas être croyant et avoir malgré tout savoir d'abord qu'on est incroyablement influencé par cette tradition religieuse qu'est le christianisme, mais aussi par le judaïsme et par la mythologie grecque. Donc c'est totalement absurde de rejeter la culture religieuse, si je puis dire, la culture, le fait religieux, alors que toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de l'art est façonnée par ces cultures religieuses, que ce soit le judaïsme, que ce soit la mythologie grecque ou que ce soit évidemment le christianisme. Vous pouvez pas traverser le Louvre sans voir des œuvres qui sont intégralement façonnées par un référent religieux. Donc c'est se couper du religieux, c'est se couper de la culture, tout simplement. Donc c'est tout à fait absurde. Là, c'est là, il y a un côté dans tout le dans l'idéologie révolutionnaire, comme dans le maoïsme, il y a toujours cette idée qu'on va casser les, on va détruire, comme on l'a fait d'ailleurs au temps de la révolution russe ou de la révolution culturelle chinoise, on va casser les traditions, on va détruire les temples, on va détruire les églises, on va casser les statues, on l'a fait aussi le vandalisme, vous vous souvenez, dans la révolution française. Vous allez c'est très intéressant, au musée Cluny, vous avez une collection de statues qui sont décapitées. Au musée Cluny à Paris, à côté de la Sorbonne. Voilà, donc ça, ce vandalisme-là, bah oui, ça reste dans l'extrême gauche, une espèce de tradition. On va faire la révolution et on va couper les têtes. Voilà, donc on coupe les têtes.
Il y a plein de bâtiments en France, ou en tout cas à Paris, où sur les escaliers, par exemple, vous avez des fleurs de lys qui ont été effacées. Exactement, au moment de la révolution.
Et au musée Cluny, je vous dis, c'est très frappant parce que vous avez cette série de statues décapitées, qui sont des statues religieuses. Voilà.
Je voudrais qu'on termine. Avec une transition un peu hasardeuse, mais oui. Il nous reste une minute. Vous savez évidemment que le régime de Bachar el-Assad est tombé ce week-end. Il n'a pas fallu 24 heures pour avoir des réactions politiques éplorées ou enthousiastes. et dans les loges maçonniques, on réclame aux apprentis le silence, au moins pendant un an, le temps de changer de grade et de devenir compagnon. Est-ce que nos politiques ne devraient pas s'imposer le silence de l'apprenti de temps en temps, avant d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur les événements contemporains ?
C'est très raisonnable ce que vous dites, parce que la situation est compliquée. On peut toujours se réjouir de voir tomber une dictature, se réjouir du fait que l'Iran est affaibli, ce qui a permis à Al-Joulani de renverser Bachar. On peut se réjouir du fait qu'il va rester chez lui. En même temps, c'est un frère musulman et il va, je peux vous le dire en toute certitude, il va installer un califat. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et moi, j'ai des amis qui sont des chrétiens d'Orient, qui m'écrivent très souvent depuis que je suis allé en Syrie, et qui me disaient toujours, si Bachar tombe, on se fait dans le quart d'heure. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas, mais attendons de voir ce qui va se passer. Attendons de voir si on va vers une guerre civile. Et de toute façon, le projet d'Al-Joulani, c'est d'installer un califat. Donc, on va tomber quand même de Caraïbe dans ce style-là. Soyons prudents et soyons pas naïfs.
Prudence, prudence. Cher Luc, nous allons nous quitter avec Renaud et Gauthier Capuçon qui ont joué samedi, évidemment, à Notre-Dame, la Passacaille de Handel, arrangée par Halvor Sehn. Luc, à la semaine prochaine.
Merci.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France. Franck Ferrand raconte.
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci.
Encore une histoire ? Bon, d'accord.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Investir dans la forêt. France Valais, expert européen d'investissement en actifs naturels, propose des solutions d'investissement responsables. France Valais, ce sont 45 000 hectares de forêt gérés durablement en Europe pour 20 000 investisseurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier habituel et sur france-valais.com. Ces investissements comportent un risque de perte en capital et de liquidité.
Le petit groom malicieux et ses amis reviennent dans un hors-série collector du Parisien aujourd'hui en France, Spirou et Fantasio. Gags, intrigues, voyages, plongés au cœur de 80 ans d'incroyables aventures. La saga fantastique de l'inséparable duo et tout le génie de leur créateur, dont le visionnaire Franquin. Spirou et Fantasio, un hors-série Le Parisien aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur philharmoniedeparis.fr.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé,
j'agis.
Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon chaque jour à 17h sur Radio Classique.
Dans un instant, la météo, les infos et Franck Ferrand raconte.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
La météo, Marc Tédé.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'investissement.
Marc, deux enclaves de soleil en France, la Bretagne et le Sud. Le reste, c'est tout gris.
Oui, le Sud qui est dégagé, le littoral méditerranéen qui est dégagé par le Mistral et la Tramontane. Les nuages dominent sur l'ensemble ou presque de l'Hexagone, là, avec quelques éclaircies effectivement dans l'Ouest. Et des averses sont à prévoir du Cotentin à la Bretagne en cours de journée sur la plupart des massifs montagneux. La neige tombe à partir de 600 mètres sur le massif central, 500 mètres d'altitude dans les Alpes et le Jura, 800 mètres dans les Pyrénées et 4 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Température maximale cet après-midi, elles sont fraîches. 5 à Clermont-Ferrand, 6 à Paris, Lyon et Dijon, 8 à Nantes et Toulouse, 9 à Bordeaux, 10 à Brest et Biarritz, 11 à Perpignan et Marseille et 13 à Nice.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.